Fréquence protestante, La valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb.
Puissance politique de la fiction. Très heureux de vous retrouver. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes en direct de Fréquence protestante avec mon invité en studio, Anne Besson, pour cette 75e émission consacrée au pouvoir de la fiction, car partout la fiction irrigue le réel. La démocratisation ancienne des films et des séries en fait des réservoirs d'icônes et d'images qui peuvent être réutilisés lors de mobilisations ou d'actions politiques. La robe rouge des servantes de The Handmaid's Tale est par exemple devenue un symbole repris à travers le monde dans les manifestations féministes. Il en va de même pour le masque de Guy Fawkes ou celui du Joker. Baptiser un mouvement l'armée de Dumbledore ou l'alliance de Harry Potter en fait saisir la nature immédiatement, sans avoir à expliquer longuement de quoi il s'agit. La fiction condense des sens que chacun saisit. Elle remplace les exemplats du Moyen-Âge et ses récits nous aident à vivre dans la vraie vie, comme on dit. Pour le dire autrement, le merveilleux nous aide à agir politiquement. À ce titre, la fiction est donc comprise dans l'espace public et fait l'objet d'appropriations diversifiées, voire de réappropriations, quand les fans s'indignent et demandent une autre fin ou la réécriture complète d'une saison finale. L'action politique peut ainsi être tournée contre l'œuvre elle-même, aussi appréciée soit-elle. C'est une révolte contre la clôture du texte et sa toute-puissance. Étrangement alors, les auteurs se retrouvent marginalisés au sein de leur propre création, voire contestés, s'ils n'ont pas mis les bons personnages ou s'ils n'ont pas été assez attentifs aux évolutions sociales de leur époque. Relue à diverses zones, l'œuvre narrative se voit imposer de nouveaux critères normatifs qui empêchent sa canonisation. La politisation de la fiction montre que l'imaginaire peut prendre le pouvoir sur le monde, qu'il perd presque son statut fictionnel pour entrer dans le réel et l'irriguer. Mais si son aura et sa force sont affaiblies, il peut en retour subvertir les règles en vigueur et devenir une arme. Bonjour Anne Besson.
Bonjour.
Anne Besson, vous êtes professeure de littérature comparée à l'Université d'Artois et spécialiste de culture populaire, notamment des genres de l'imaginaire. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur cette question. Je vous reçois pour le dernier, qui s'intitule « Les pouvoirs de l'enchantement, usage politique de la fantaisie et de la science-fiction », qui est paru chez Vendémiaire en 2021. Anne Besson, est-ce que nous avons aujourd'hui affaire à des lecteurs et à des spectateurs qui ont développé depuis le temps une expertise sur la fiction? Est-ce qu'on a de nouveaux lecteurs qui sont, on va le dire prosaïquement, devenus assez forts sur ce qu'ils lisent et sur ce qu'ils regardent?
Oui, des lecteurs, des spectateurs, des joueurs, donc des consommateurs vraiment plurimédiatiques qui sont de très très gros consommateurs. Car il faut, ce qui explique ça, c'est une offre pléthorique aujourd'hui de fiction extrêmement diversifiée, au sein de laquelle se trouve effectivement un certain nombre de fictions exigeantes, qui demandent vraiment, qui réclament un décryptage, une volonté de s'attacher aux détails, un travail chez le spectateur qui va être d'anticipation, d'exploration, d'enrichissement herméneutique, hein, c'est-à-dire l'interprétation par le spectateur, le joueur, le lecteur, la lectrice, etc., va vraiment apporter quelque chose. C'est demandé par la fiction elle-même. C'est ce que Jason Mittel appelle la complexe TV, sur le cas des séries, parce que ça concerne surtout des œuvres à suivre, des œuvres au long terme, bien sûr. S'il y a une seule itération, il y a moins d'ouverture possible pour une appropriation, un approfondissement, etc. On note aussi aujourd'hui le très très fort développement des univers transmédiatiques, hein, qui vont répartir des morceaux de récits plus ou moins autonomes, plus ou moins interconnectés, dans de très nombreux supports médiatiques. C'est des univers, par exemple, Marvel ou Star Wars, qui, avec les plateformes de diffusion type Netflix, Amazon Prime ou Disney+, ont littéralement explosé. Et là aussi, qui demandent vraiment à leur public une mémoire de ce qu'ils ont vu, une capacité à faire des rapprochements, à établir des liens, à se projeter, à se rappeler. Donc vraiment à naviguer dans des univers qui sont complexes.
Oui, qui sont devenus des récits très complexes. Et en revanche, ça met une pression importante sur les scénaristes et sur les showrunners, parce qu'effectivement, ils savent qu'il y a des attentes particulières, et donc il va falloir jouer de tous ces côtés-là. On ne peut plus aujourd'hui présenter une fiction qui serait naïve, linéaire, évidente, Anne Besson.
Alors, ça peut même être un choix de narration, en fait, hein, de revenir justement à la naïveté et au côté linéaire. Par exemple, je pense à la série The Mandalorian, qui, dans l'univers Star Wars, a marqué justement pour ça, comme une espèce de retour aux sources, à l'enfance, au grand récit du space-op. Donc ça peut être une option parce que justement, c'est aujourd'hui très compliqué de saisir les attentes de ce public expert. Il y a un grand investissement dans les fictions, mais qui est très hétérogène. Et donc, chaque scénariste dans ces grands univers va essayer, enfin, chaque équipe de scénaristes, parce qu'ils sont rarement seuls, d'équilibrer les attentes des experts et tout en laissant rentrer à chaque fois de nouvelles générations, un nouveau public, le but étant de l'étendre au maximum et de ne pas rester sur ses acquis, de ne pas faire seulement du fan service, hein, oui. De ne pas s'adresser que aux fans pointus, mais au contraire de pouvoir régulièrement renouveler le public, aller chercher les jeunes, aller chercher les enfants, etc. Ça, c'est vraiment une tendance générale de ces grands univers.
Mais donc, il faut le dire, la pop culture, si on la qualifie comme ça, on peut discuter du terme, elle se veut en tout cas très démocratique. On ne va pas s'adresser à une élite, on ne va pas s'adresser, vous venez de le dire, qu'à la fanbase, qui est très exigeante, qui en plus est très compliquée à combler, et voilà. Mais on va essayer de s'adresser à une population relativement large. Donc, est-ce que la qualité de la pop culture, c'est précisément justement d'être démocratique et en tout cas de démocratiser une forme de culture spécifique ?
La culture pop, voilà, son nom même dit qu'elle est, qu'elle est populaire, donc elle vise le public le plus large, avec une différence importante entre, qui a été établie par la critique, entre la culture de masse, qui essaye d'inonder le public sans trop réfléchir à ce qu'on lui propose, et la culture populaire qui désigne plus particulièrement ce qui, dans cette offre massive, va être saisi par les publics, va faire l'objet d'une appropriation et d'un investissement affectif. Mais bien sûr, ce qui distingue la culture populaire du reste de ce qui est proposé, c'est le fait qu'elle assume ses objectifs qui consistent à parler à son public, à parler au public le plus large, à aller vers les attentes d'un public. Attentes qui, en revanche, sont très très difficiles à cerner. Donc c'est pas comme si c'était facile de produire de la bonne culture pop, parce qu'au contraire, à chaque fois qu'on essaye de donner au public ce qu'on pense, ce qu'il attend, en fait, il attendait autre chose qu'il ne savait pas qu'il attendait. Donc il faut en permanence être dans l'anticipation des attentes des publics et non pas seulement dans la répétition de ce qui a déjà marché.
Ce qui vous a beaucoup intéressé, Anne Besson, c'est cette question des pouvoirs de la fiction qui va faire l'objet de notre émission. Mais si on voulait un peu déjà commencer à y entrer, à dégrossir un tout petit peu, quels sont les pouvoirs de la fiction ? Est-ce qu'elle est là pour produire des normes ? Est-ce qu'elle est critique ? Est-ce qu'elle est subversive ? Voilà, comment est-ce que vous approchez cette question-là des pouvoirs de la fiction ?
Alors, c'est une question qui est vraiment très complexe et très débattue entre des pouvoirs faibles et des pouvoirs forts. Bon, globalement, on ne peut pas penser que... Enfin, je ne pense pas du moins que jouer à des jeux vidéo violents est ce qui induit des comportements violents dans la réalité, ce qui serait une interprétation directe des pouvoirs de la fiction. Les pouvoirs de la fiction sont indirects. Ils viennent en sus d'autres éléments. Ils sont indirects et effectivement par la production d'empathie, par la production d'identification, par la production d'affect et de valeur. C'est-à-dire qu'on s'immerge dans des univers, on s'identifie à des personnages et à travers eux, on voit le monde autrement que notre vision limitée à notre place dans le réel nous le permet en général. Donc la fiction, c'est essentiellement une exploration de l'autre et de l'ailleurs. Et en soi, c'est donc une ouverture et un apport de tolérance. Mmh. Ensuite, chacun peut l'interpréter comme il le souhaite. Il y a toujours une ouverture de l'interprétation qui fait que chacune des fictions va pouvoir être tirée dans un sens ou dans un autre et que ce n'est pas du tout univoque ou monolithique.
Vous avez beaucoup travaillé sur les récits de fantasy et sur la science-fiction. Et dans votre ouvrage, vous rappelez, Anne Besson, que parmi ces grands genres, ou en tout cas si on travaille sur ces deux grands genres, historiquement, la fantasy avait été considérée comme conservatrice et la science-fiction avait été considérée comme progressiste. Qu'est-ce que c'est que cette lecture ? D'où ça vient ? Et est-ce que c'est encore vrai ?
Alors, il y a là-dedans une espèce d'évidence, puisque on peut tout simplement opposer la SF tournée vers le futur et la fantasy tournée vers le passé, puisqu'elle nous présente typiquement des univers qui sont pré-technologiques, qui sont souvent inspirés par des périodes historiques et en particulier par le Moyen-Âge. Donc, voilà, tout simplement, on se dit la fiction regarde vers l'avant, la science-fiction regarde vers l'avant et la fantasy se complaît dans une nostalgie du passé, tout à fait. Et dans les années 70, 70-80, quand la fantasy commence timidement à arriver en France, c'est vraiment comme ça que c'est perçu. C'est-à-dire les amateurs de SF, qui commencent à être déjà bien structurés en France, qui ont eu du mal à se structurer et qui sont globalement politiquement très à gauche, voient la fantasy comme une épouvantable invasion américaine de textes horriblement mal écrits et qui vont... être une espèce d'attaque contre ce qu'ils ont construit. J'ai une doctorante qui travaille là-dessus, sur la première réception de la fantasy, et c'est très frappant, le vocabulaire martial de attention, on est envahi par cette culture consumériste et nulle, et qu'est-ce que ça va produire chez le public, ils se rendent pas compte. Donc ça, vraiment, ça a été reçu comme ça. Maintenant, c'est évidemment plus compliqué que ça. Plus compliqué à chaque instant T, puisque quand la fantasy arrive en France, effectivement, ce qui arrive, c'est des espèces de post-Conan. Conan le barbare de Robert Howard. Donc, qui a lui-même été extrêmement défiguré par des réécritures et des adaptations successives. Et donc, quand il arrive, et quand ce qui arrive, c'est sous-Conan, c'est effectivement horriblement viriliste et nul, avec aucune réflexion sur la violence intégrale de ces ouvrages. Enfin, voilà, si on tue du barbare, on tue du sous-peuple...
On tue des races. Enfin, vous citez Norman Spinrad qui dit la fantasy, c'est le lieu où va se déchaîner des génocides en permanence. Mais c'est pas grave parce que c'est des orques et c'est des sous-races. Donc il y a effectivement cet élément-là d'une violence ininterrogée gênante.
Ouais, un fascisme d'une certaine fantasy. C'est Norman Spinrad qui dénonce ça effectivement dans un ouvrage qui est super qui s'appelle Rêve de fer, où il imagine que Adolf Hitler est devenu auteur de fantasy et donc écrit les aventures d'un surhomme qui massacre des sous-peuples. Donc ça marche très très bien, donc c'est effrayant. Et en même temps, à la même époque aux États-Unis, c'est aussi la première fantasy féministe. C'est aussi le moment où écrit Ursula Le Guin les premiers volumes de son cycle Terre-Mère, ou Anne McCaffrey, La balade des dragons de Perne. Et donc, où là, l'idéologie explicite est complètement différente. Donc, à ce moment-là, c'est déjà vrai, et c'est encore plus vrai sur le long terme, avec l'évolution de certains thèmes qui apparaissent en fantasy et qui apparaissent beaucoup moins en SF. Je pense à celui de l'écologie. L'écologie, a priori, a pu être reçue comme un discours conservateur, puisqu'il s'agit de préserver la nature, les paysages de la campagne, la faune et la flore. Et quand Tolkien écrit dans son essai du Conte de Fées, donc qui prononce en 39 et qui publie en 46 ou 47, il dit que voilà, lui, il refuse cette modernité qu'on lui propose. En fait, ce qu'il refuse, c'est l'usine et la bombe. Mm-hmm. Et que voilà, si c'est ça qu'il faut refuser, il assume complètement le fait d'être réactionnaire. Mm-hmm. Et voilà, le terme de réaction, il le repositive en disant oui, je suis en réaction contre ça, je suis en réaction contre ces évolutions-là. Ça a été pendant longtemps complètement inaudible, notamment parce que la gauche était progressiste, parce que le combat social semblait complètement incompatible avec la préservation de l'environnement. C'est encore difficile de les concilier aujourd'hui, alors qu'il faut vraiment aller dans ce sens. Et ce n'est que récemment que l'écologie revient comme un combat, aujourd'hui, pour les jeunes générations, littéralement révolutionnaire. C'est-à-dire que, voilà, dès qu'ils commencent à réfléchir au réchauffement climatique, ils en viennent très vite au renversement du système capitaliste carbonivore. Donc, voilà, cette repolitisation de l'écologie comme une opposition au monde tel qu'il va, ça participe au fait que la fantasy est revenue sur le devant de la scène et a réussi à retourner le stigmate qui lui était attaché.
C'est ça, donc elle est devenue finalement le lieu, on l'a relue comme étant pionnière sur ces questions d'écologie, notamment Tolkien avec les forêts, les arbres, la préservation, etc. Et du coup, mouvement inverse du côté de la science-fiction qui ne devient pas réac, mais qui en tout cas devient très inquiète, Anne Besson, parce que on a beaucoup de récits de science-fiction qui vont vers la question de l'apocalypse, vers la question du réchauffement climatique, la fin de l'humanité. On a énormément de récits de science-fiction qui sont plus du tout l'humanisme de Star Trek et la conquête des étoiles, mais plutôt des angoisses sur l'avenir de la planète et ce qu'on va devenir.
Oui, effectivement. Alors ça aussi, en fait, c'est assez ancien, hein, mais la SF est clairement venu à ces thèmes écologistes, plutôt donc sous l'angle de l'avertissement. Vous avez raison, donc dans tout ce qu'on appelle la fiction post-apocalyptique ou les éco-fictions, la climate fiction, qui est un terme venu des États-Unis, mais qui désigne ça, hein, cet ensemble de textes qui réfléchissent à un avenir du réchauffement climatique. Pour revenir à Norman Spinrad, qui est décidément toujours visionnaire, il avait écrit Bleu comme une orange en 99, où il imagine un Paris devenu complètement une espèce de sphère exotique avec la montée des eaux. Et donc, il y a de la jungle et des perroquets dans Paris. Et en même temps, c'est un des rares endroits qui est encore préservé parce que Londres est sous les eaux depuis bien longtemps. Les Pays-Bas aussi, exact. Et tout le monde se retrouve dans la jungle parisienne. Andrevon aussi est un auteur français qui, lui, dès les années 70, dans Gandhar contre les hommes-machines, écrit déjà le récit d'une opposition de deux civilisations. Alors là, beaucoup plus dans un contexte hippie, disons. Mmh. Mais on a vraiment des cycles comme ça qui nous font revenir aux mêmes questions, aux mêmes préoccupations, sachant que l'ASF passe son temps à projeter des avenirs inquiétants ou désirables, et que elle décline un certain nombre de menaces en fonction des angoisses qui sont celles des générations successives.
Oui, ça a pu être l'angoisse nucléaire et aujourd'hui c'est par exemple l'angoisse climatique. Et alors en même temps, Anne Besson, vous dites qu'il y a chez les auteurs une résistance à une lecture seulement allégorique de leur œuvre. Alors il y a des auteurs qui sont très politisés et qui vont effectivement profiter de l'œuvre pour faire passer un certain nombre de messages. Et puis il y a des interprétations que les auteurs refusent. Par exemple, Tolkien dit l'anneau de Sauron, c'est pas la bombe nucléaire. Quoi, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est un peu la limite aussi de l'interprétation de la fiction. C'est toujours la question de l'intention de l'auteur. Est-ce qu'on a tendance à, pour le coup, surinterpréter ou lire à l'aune de notre propre contexte social et culturel contre l'auteur ?
Alors, faire ce type de lecture, c'est complètement légitime et pertinent. On en a absolument le droit. Maintenant, les auteurs qui veulent durer sont ceux qui se préoccupent de continuer à faire sens au fil de ces interprétations successives, justement. Parce que s'ils ont donné un message univoque et associé à une actualité, leur œuvre risque fort de ne pas passer le terrible couperet de l'histoire littéraire qui condamne à l'oubli une énorme majorité des œuvres littéraires. Donc effectivement, ils ont plus intérêt à partir du côté de la fable, de la fiction fable, que de la fiction tract, qui annonce trop clairement ses intentions, la relie trop clairement à un contexte précis de l'histoire politique ou culturelle. Et donc, met en danger sa capacité, son ouverture herméneutique à long terme. Donc, effectivement, Tolkien s'est toujours opposé très clairement à toute lecture univoque de son œuvre, qui, quand elle est reçue juste après la Seconde Guerre mondiale, est effectivement directement reçue comme ça, comme l'anneau, c'est la bombe. Qui va avoir la bombe? Qui va avoir l'arme ultime qui permet de mettre fin au combat? Et puis, les orques sont des communistes. Il dit aussi, dire que les orques sont des communistes, c'est aussi bête que dire que les communistes sont des orques. Ça n'a strictement aucun sens. Et ensuite, son œuvre va être reçue dans la fin des années 60, deuxième moitié des années 60, donc vraiment dans le contexte hippie, Summer of Love, des campus américains en lutte contre la guerre du Vietnam. Cette fois, comme un pamphlet antimilitariste et une défense des idéaux de cette génération-là, qui sont du côté, oui, du contact avec la nature, d'un besoin existentiel de créer une identité plus en lien avec le monde, de refuser l'industrialisation, la déforestation, etc. Il s'y oppose aussi. Ça n'est pas non plus la lecture qu'il souhaite. Le Seigneur des Anneaux n'est pas pour lui un ouvrage hippie. Enfin voilà, c'est un homme d'Oxford, aux valeurs plutôt traditionnalistes, donc il ne se reconnaît pas là-dedans. Et ces lectures successives, elles restent cependant possibles, et ce sont elles qui font l'intérêt de l'œuvre. Elle n'aurait pas réussi à arriver jusqu'à nous si elle n'avait pas ce potentiel de renouvellement. dans un style beaucoup plus étroit, l'ami de Tolkien, longtemps collègue et ami C.S. Lewis, lui, a priori, il a une œuvre qui est beaucoup plus décryptable, puisque les chroniques de Narnia, c'est une espèce de catéchisme protestant.
Pour le coup, c'est un tract ou...
Eh bien, alors, ça peut y ressembler, ouais. Mais cependant, C.S. Lewis dit que non.
D'accord.
C.S. Lewis s'en défend bien. Puisque lui, justement, il a écrit cette série de romans pour sensibiliser les jeunes futurs ouailles aux messages religieux, sans du tout les repousser par quelque chose qui serait trop didactique, trop systématique, parce que lui-même avait très mal vécu son éducation religieuse et s'était pendant un certain temps éloigné de la foi. Il y revient et voilà, il devient un des grands porteurs de ce message à travers notamment des émissions de radio. Et puis, voilà, à la fin de sa carrière, il décide d'écrire ses ouvrages pour les enfants. Et il dit vraiment que une allégorie, dont il était spécialiste, il était spécialiste de l'allégorie médiévale, c'était un prof de littérature médiévale. Donc voilà, il connaissait bien l'allégorie, il dit « Ah, c'est pas une allégorie. Une allégorie, c'est comme une énigme avec une solution, une seule. Voilà, on décrypte de manière univoque une abstraction pour et incarnée par un personnage. Alors que lui, ce qu'il veut faire, ça ressemble plus au parfum d'une fleur qui nous évoque quelque chose sans qu'on sache exactement quoi. Et effectivement, les chroniques de Narnia peuvent être lues sans comprendre le message religieux. Ça, je le vois constamment avec des étudiants qui n'ont pas de culture religieuse et qui ne repèrent pas si on ne leur dit pas que le message est celui-là, que les valeurs qui sont véhiculées sont des valeurs chrétiennes. Et ne pas voir que c'est des valeurs chrétiennes, c'est pas grave, parce qu'on voit les valeurs quand même. Et c'est ça qui importe, c'est cette dimension morale de la fantaisie.
Les valeurs restent. Alors pour finir sur cette question de l'allégorie, il y a quand même des auteurs qui renoncent finalement ou qui acceptent l'interprétation qui est faite de leur œuvre. Je pense à J.R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, qui va finir par adopter l'idée que les marcheurs blancs seraient une allégorie du changement climatique. Donc là, il s'est dit peut-être que c'est pas mal d'être dans l'époque. Et il a trouvé l'idée bonne, Anne Besson.
Oui, tout à fait. C'est William Blanc qui repère ça dans son ouvrage Winter is Coming, qui est paru chez Libertalia, et qui voit l'évolution du discours de Martin sur cette interprétation-là. Donc l'interprétation de les marcheurs blancs, c'est cette énorme menace donc de nature climatique contre laquelle il faut s'unir en oubliant, en mettant de côté tous les conflits qui peuvent nous déchirer par ailleurs, et Dieu sait s'ils sont nombreux dans le monde de Westeros. Mais voilà, qui justifie l'union de tous, l'urgence ultime. Et donc au départ, effectivement, il l'a pas écrit comme ça. C'était pas son idée, parce que tout simplement l'urgence du changement climatique à l'époque n'avait pas été identifiée comme telle. Et donc c'est une thématique d'actualité qui monte au fur et à mesure de l'écriture de son cycle romanesque, et à plus forte raison de son adaptation télévisée. Et quand l'adaptation télévisée sort, c'est une évidence pour les publics, une telle évidence que ça indique la pertinence de cette lecture. Cependant, on pourra très bien, espérons, si Game of Thrones survit dans 30 ans et est encore lu, on pourra sans doute l'interpréter autrement.
Et ne pas être prisonnier de notre propre époque. Nous allons écouter la voix d'une autre grande auteure ou autrice, J.K. Rowling, auteur de la saga Harry Potter, sur la puissance de l'imagination. C'était à Harvard en 2008.
Unlike any other creature on this planet, human beings can learn and understand without having experienced. They can think themselves into other people's places. Of course, this is a power like my brand of fictional magic that is morally neutral. One might use such an ability to manipulate or control just as much as to understand or sympathize. And many prefer not to exercise their imaginations at all. They choose to remain comfortably within the bounds of their own experience, never troubling to wonder how it would feel to have been born other than they are. They can refuse to hear screams or peer inside cages. They can close their minds and hearts to any suffering that does not touch them personally. They can refuse to know. I might be tempted to envy people who can live that way, except that I do not think they have any fewer nightmares than I do. Choosing to live in narrow spaces leads to a form of mental agoraphobia, and that brings its own terrors. I think the willfully unimaginative see more monsters. They are often more afraid. What is more, those who choose not to empathize enable real monsters, for without ever committing an act of outright evil ourselves, we collude with it through our own apathy.
La valeur de l'homme, fréquence protestante, puissance politique de la fiction. Nous sommes en compagnie d'Anne Besson. Ce qui vous intéresse, Anne Besson, c'est les liens entre politique et imaginaire, politique et récit imaginaire. Et vous écrivez cependant, de manière là critique, en tout cas, je vous ai lu comme ça, la majorité des œuvres concernées n'apportent pas grand-chose à une quelconque réflexion d'ampleur. C'était un passage qui était consacré à l'idée que les fictions seraient des laboratoires politiques. Donc il y a quand même un moment où la puissance de l'imagination va se heurter à la limite du récit, à la limite du support et à la limite de la division du travail qui fait que y a des hommes et des femmes politiques qui à un moment vont prendre à charge la politique et pas la fiction. C'était ça votre idée de cette limite ?
Oui, alors d'abord, c'est que souvent, les fictions se limitent à des bonnes intentions qui ne coûtent pas grand-chose. Si je reprends l'exemple de J.K. Rowling, en laissant ici de côté les polémiques très justifiées sur ses positions vis-à-vis des personnes transgenres. J.K. Rowling, son œuvre, et c'est très bien, défend la tolérance et dénonce un type de gouvernement par Voldemort, enfin de prise de pouvoir, qui rappelle très fort les nazis.
Mmh. Avec la pureté du sang des sorciers.
Exactement. Mmh. Donc c'est très bien, mais c'est pas révolutionnaire non plus. Enfin voilà, je pense qu'on est quand même assez consensuellement d'accord pour dire que les nazis, c'est pas bien. Alors, il faut le rappeler aux enfants et faire très régulièrement un devoir de mémoire en ce sens. Mais voilà, ça ne va pas plus loin. Ce qui va plus loin, ce sont les très nombreux fans de Harry Potter qui, à partir de ces valeurs-là, de cette prise de conscience-là, très jeune, il faut aller vers plus de tolérance, il faut que le racisme ou le sexisme ne soit pas un problème, sont allés vers de l'engagement beaucoup plus concret, beaucoup plus ferme et dans le réel. La fiction ne suffit pas. Elle a un vrai pouvoir. Par exemple, on peut penser que c'est très volontariste ou naïf de penser que, avec plus de représentations de femmes puissantes ou de personnes racisées ou non binaires, on va faire avancer les choses. Ça ne suffit pas, très clairement, puisque ça touche seulement un certain nombre de personnes, avec le risque que ce soit des personnes déjà sensibilisées à ce message. Il faut voir ensuite ce que ça devient au niveau beaucoup plus hétérogène d'une population entière. Mais ça marche cependant, c'est-à-dire que petit à petit, les choses avancent grâce à des fictions qui accompagnent, voire anticipent légèrement les réalités sociales et contribuent à les faire progresser. Ça ne suffit pas, cependant. Mmh. Effectivement, ça ne peut être qu'une marche vers une prise de conscience politique qui, elle, devra impérativement s'accompagner de consommation non fictionnelle et de « je me lève de mon canapé à un moment pour essayer de faire quelque chose à mon niveau ».
Oui, un vrai passage à l'action, un vrai engagement. Vous dites, Anne Besson, on interroge la norme que quand elle est déjà discutée. Donc la fiction est peut-être moins en avance que ce qu'elle imagine. Elle peut faire plein de propositions, mais sur des choses qui, au fond, sont déjà sur la table et sont déjà dans la discussion politique.
Dans les discussions politiques ou peut-être dans les mentalités, parce que dans les discussions politiques, c'est qui ne les accompagne pas forcément. Mmh. Actuellement, il y a une vraie fracture entre la jeune génération, celle qui consomme les fictions qui m'intéressent, et ce que sont capables de proposer ou de concevoir les politiciens qui nous gouvernent. Donc ça, c'est pas forcément... j'adhérerais pas complètement à cette phrase.
En tout cas, ce qui vous a intéressé, c'est l'idée que l'imaginaire et les fictions sont des lieux de proposition ou sont des lieux nouveaux, Anne Besson, parce qu'il y a le « et si », le « what if », ce moment qui lance le récit. Donc tout l'intérêt de la fiction, c'est précisément de pouvoir être libre parce qu'elle fait un petit écart avec le réel, mais cet écart fait tout.
Oui, inventer de nouvelles normes, c'est quasiment impossible. C'est trop demandé, hein, tout simplement parce que l'esprit humain est fait d'une telle façon qu'il est prisonnier d'un certain nombre d'éléments de codification. Et voilà, essayer d'imaginer quelque chose d'extrêmement expérimental, ça ne marcherait pas non plus parce que ça tomberait à côté du public. Mais cet outil très puissant qu'ont les littératures de l'imaginaire, c'est effectivement le what if, le et si. Je pars d'une situation que je peux envisager aujourd'hui dans le contexte qui est le mien, et je la pousse dans un sens ou dans l'autre, je la pousse ou je la décale. La SF, typiquement, va avoir tendance à la pousser, et la science-fiction et la fantasy à la décaler. Ça va permettre, par exemple, d'imaginer des populations ou des sociétés qui ont complètement dépassé la question du genre. Voilà, la science-fiction ou la fantasy permettent ça. C'est-à-dire de ne pas seulement rester dans des histoires qui nous racontent la réalité quotidienne qui va pouvoir être concernée par ce type de problématique, mais les projeter et en nous permettant d'y réfléchir à échelle beaucoup plus large et donc d'élargir notre pensée sur ce qu'on peut en penser.
Et aussi lancer l'alerte, on l'a évoqué rapidement, mais il y a énormément de récits de fiction, je pense à The Handmaid's Tale qui fait la couverture de votre ouvrage, qui vont précisément alors lancer l'alerte sur les menaces pesant sur les femmes, sur des régimes dictatoriaux, sur le réchauffement climatique. Donc il y a quand même cette fonction, pour le coup, très politique assumée, mais la fiction peut le faire précisément parce qu'elle elle brasse large, elle s'adresse à beaucoup de publics.
Oui, il y a vraiment deux angles de ces littératures de l'imaginaire, donc cet angle dystopique qui projette donc la dystopie des sociétés futures inquiétantes et marquées par le contrôle, donc dans La Servante écarlate, le contrôle du corps des femmes, et donc cette inquiétude sur la génération, et l'immigration et la fertilité de la femme blanche, donc voilà des questions qui sont très importante aujourd'hui. Et puis, il y a aussi un angle plus utopique qui va consister à imaginer, des avenirs où cette question-là est dépassée, ou alors d'autres types de maternité, d'autres types de manière d'élever les enfants qui réconcilient avec la question de la génération, par exemple.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que beaucoup de ces fictions-là qui lancent l'alerte mettent en scène elles-mêmes des adolescents. C'est-à-dire que non seulement elles s'adressent à la nouvelle génération, aux jeunes, mais ce sont les héros mêmes. Je pense à Hunger Games, Divergent. Là, il y a vraiment l'idée de dire la relève, c'est vous. En tout cas, dans la fiction, la relève, c'est vous. Si vous voulez passer à l'action, vous le ferez. Mais on va vous mettre en scène parce que, à la fois, vous êtes le public concerné. En même temps, l'alerte, c'est pour vous.
Oui, tout à fait. Il y a eu une grande vogue des dystopies pour adolescents et jeunes adultes dans les années 2010 qui a vraiment était un des éléments déclencheurs pour moi de ce livre, de cette appétence des jeunes générations pour des fictions politiques et pour des histoires qui leur disent qu'ils peuvent faire la différence. Je trouve que c'est naïf, mais vraiment important de leur redire ça, de raconter des mondes qui sont englués par les erreurs des pères, de la génération précédente, et de montrer l'émergence de héros et surtout d'héroïnes, d'ailleurs, qui vont renverser le cours des choses par la seule force de leur conviction et de leur résistance. Donc oui, c'est un des exemples importants de politisation des fictions récentes à destination des jeunes générations.
Ouais, des formes d'empowerment. Alors l'empowerment, il est à la fois pour les personnages de fiction, mais l'empowerment, il est aussi dans du côté des lecteurs, parce que une grande partie aussi de votre ouvrage, Anne Besson, est consacrée à ce que vous appelez la contestation de la clôture narrative d'une œuvre. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qu'on conteste désormais ?
On conteste le fait que ça se termine. On conteste les fins des histoires, les fins des séries en particulier, qui sont devenues un lieu extrêmement compliqué et polémique pour toute œuvre qui a dépassé un certain niveau de notoriété publique. On sait que il va y avoir des problèmes avec la fin. L'exemple le plus frappant de ce point de vue-là, c'est bien entendu la dernière saison de Game of Thrones, qui a, mais pratiquement dès le début de la saison, et puis progressivement de plus en plus, et puis ça a explosé lors des derniers épisodes, soulevé un vent de contestation absolument faramineux, avec des millions de gens signant une pétition pour la réécrire. C'était complètement possible d'anticiper ce problème. Et voilà, tout le monde le voyait venir gros comme une maison, et personne n'a pu éviter cette espèce d'iceberg vers lequel le Titanic se dirigeait. Alors que, évidemment, les showrunners et les scénaristes ont fait ce qu'ils pouvaient pour faire le meilleur scénario, alors que Martin avait a priori donné des guidelines, hein, des lignes directrices pour cette fin, alors que le budget était faramineux. Pourquoi donc ? Parce que il était tout simplement impossible de bien finir. Et je pense que, voilà, aujourd'hui, bien finir est peut-être quelque chose qui relève d'une gageure qui ne me semble pas pouvoir être relevée. On ne peut pas bien finir tout simplement parce qu'on ne veut pas finir. Ce qui est la force des fictions actuellement, c'est précisément leur ouverture. Un terme que j'ai pas arrêté d'utiliser pendant cette discussion, cette ouverture herméneutique, cette capacité à se projeter dans des possibles de l'avenir ou des mondes parallèles, à imaginer des choses autres que celles qu'on vit. Dès lors que la fiction se clôt, elle oblitère toutes les pistes imaginaires qu'elle avait elle-même suscitées. Ça partait dans tous les sens, hein. Chacun pouvait imaginer ce qu'il souhaitait pour chacun des personnages, et pour Game of Thrones, c'est absolument faramineux ce que ça pouvait produire comme données imaginaires potentielles. Et là, une seule option reste possible, et toutes les autres tombent. Et donc, c'est un deuil affreux. Personne ne veut ça. Sauf les rares qui sont capables de se contenter de ce qu'on nous a proposé.
Ceux qui acceptent l'autorité de l'auteur, hein, c'est le même mot, parce que ce qui vous a intéressé aussi et que vous analysez dans votre ouvrage, Anne Besson, c'est la fin de l'autorité de l'auteur. C'est-à-dire, il y a effectivement la difficulté à finir, et en même temps, on ne veut plus du tout prendre ce que l'auteur nous donne et le prendre en acceptant l'autorité de celui qui est le grand marionnettiste de cet imaginaire. Donc là, on arrive à un point un tout petit peu problématique, en tout cas dans le rapport à l'œuvre, qui est que on fait plus confiance à l'auteur et on voudrait peut-être réécrire soi-même en se disant qu'on ferait mieux que lui.
Oui, ou du moins, on ne veut pas qu'effectivement quiconque, y compris donc les personnes qui sont a priori en charge de raconter l'histoire, nous disent c'est comme ça et pas autrement. Ça a des retentissements politiques vraiment intéressants, en partie inquiétants et très largement aussi exaltants. Hein. Il faut pas partir sur une seule des options. Mais effectivement, on ne veut pas que ce soit ça. La fin. C'est pareil pour J.K. Rowling, c'est pareil pour la plupart des grands ouvrages qui se sont terminés ces derniers temps, et qui en même temps ne se sont pas terminés, puisque précisément les lecteurs, les lectrices, les spectatrices, etc. ont décidé de les continuent à alimenter le monde fictionnel en permanence par le biais des fanfictions, des fanarts, des vidéos, des podcasts d'analyse, etc. Enfin, il y a une production publique autour de ces œuvres qui continue à les faire vivre et qui contribue à ce que cette fermeture postulée par les auteurs, de fait, ne soit pas une réalité. Enfin voilà, qu'il y a vraiment une attaque permanente contre cette unique voie serait celle des histoires qu'on nous écrit. Avec là aussi un parallèle évident entre les récits de fiction et le grand récit de nos sociétés, telles qu'elles s'inventent en permanence.
Il y a un conflit effectivement avec l'auteur et la fin de l'auteur, et puis il y a aussi la fin avec la fin du récit, mais il y a aussi un conflit sur le contenu même, et vous racontez que désormais chaque œuvre est engagée ou peut être prise dans ce que vous appelez une guerre culturelle. Alors il faut nous raconter un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on a par exemple aux États-Unis États-Unis, ceux qui s'appellent les Social Justice Warriors, alors les guerriers de la justice sociale qui vont soutenir des fictions très progressistes, et les Sad Puppies ou les Rabbit Puppies sont plutôt conservateurs et qui vont dire la fiction n'est pas le lieu pour nous vendre votre progressisme bélan. Bon, alors là, c'est compliqué pour l'œuvre. Là, on n'est même plus dans l'interprétation, on est dans du conflit réellement politique dans la vraie vie, Anne Besson.
Oui, la politisation des fictions, elle accompagne, c'est sûr, une polarisation toujours plus forte du champ politique. Hein. On revient à des fractures idéologiques qui rappellent celles des années 70. Hein. C'est quelque chose qui est très clair. Et effectivement, l'anecdote que vous rappelez, elle a occupé les prix Hugo, qui sont les grands prix de littérature de l'imaginaire américain pendant plusieurs années. Où effectivement, les prix étaient régulièrement raflés par des jeunes femmes afro-américaines dont les ouvrages sont excellents.
Hein. Donc là, N.K. Jemisin.
Tout enfin, à fait. Ouais, c'était les volumes de La Terre fracturée de Nora K. Jemisin qui raflaient tous ces prix. Et voilà, c'est mérité. Hein. Donc là, il faut commencer par le dire. Et ça a commencé à susciter une certaine amertume, une certaine rancœur de la part de d'hommes blancs qui n'avaient pas l'habitude que ça se passe comme ça. Donc ça, c'était au départ. Et puis très rapidement, ça a quand même été aussi récupéré hein, par l'alt-right américaine et piloté en sous-main, enfin même pas en sous-main, par l'activiste qui s'appelle Vox Day, qu'on retrouve dans tous ces épisodes de guerre culturelle, puisqu'il était aussi à la tête de ce qu'on appelait le Gamergate, hein, qui était un énorme scandale sur le sexisme des jeux vidéo. Où en gros une pauvre femme s'était plainte du sexisme du milieu.
Et là, ça a été l'acharnement total. Ouais.
Des centaines et des milliers de gars lui sont tombés dessus en disant c'est notre monde, on peut quand même être libre de dire ce qu'on veut ici et de faire ce qu'on veut ici. Cette polémique-là a existé et elle est effectivement représentative du fait que ce qu'on peut voir comme la montée de voix progressivement plus tolérante et plus progressiste au sein des littératures de l'imaginaire n'est pas du tout si consensuelle que ça. C'est-à-dire qu'elle fait vraiment l'objet d'oppositions internes très vives. Et moi, je suis complètement sidérée par l'ampleur et la rapidité du backlash qu'on vit actuellement, avec le succès du terme wokisme qui est agité comme un épouvantail contre un ennemi largement fantomatique, puisque derrière ce terme se cache une nébuleuse de gens qui n'ont pas forcément de points véritablement communs, ou du moins qui ne se perçoivent pas du tout comme quelque chose d'unifié. Et donc là, effectivement, on voit la guerre culturelle, qui est une spécialité américaine, arriver en France de manière très, 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 très claire, hein, avec ces motifs de la repentance, de la cancel culture, etc.
Et brièvement, parce que l'émission va s'achever très bientôt, mais même J.K. Rowling a été prise, alors au-delà des tweets qui ont posé problème, mais on lui a reproché de ne pas mettre en scène de personnages homosexuels, de s'être moqué un peu des valeurs de la maison Poufsouffle. Bon, donc là, c'est compliqué, ce type de relecture de l'œuvre qui n'était pas du tout prévue par l'auteur, on l'a dit. C'est une œuvre tolérante, très féministe avec le personnage d'Hermione. Là, même ça, c'est un peu, ça tombe de son piédestal, Anne Besson.
Ben, en fait, c'est le problème justement de cette capacité à suivre ou pas son époque. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui, dans son époque, était parfaitement tolérante et progressiste, hein, c'est-à-dire fin des années 90 et début des années 2000, mais qui s'est fait déborder par son public à la vitesse de la lumière, puisqu'elle continue à être lue par tous les jeunes gens. Enfin, ça reste un best-seller absolu. Sauf qu'en la lisant aujourd'hui, ils n'y lisent plus exactement la même chose. Ils se disent, tiens, c'est quand même bizarre ces attaques contre les gros. Tiens, c'est bizarre, il n'y a pas un seul homo, parce qu'eux, ils sont habitués à ce que la représentativité d'une société telle que eux l'envisagent, de leur point de vue contemporain, ça va plus loin que ça. Et donc voilà, clairement, Rowling, elle a été débordée par son succès, débordée par le public même qu'elle a contribué à élever vers plus de tolérance et qui désormais va plus loin qu'elle.
Bon, c'est un effet effectivement particulier. Il n'était pas forcément attendu, mais en tout cas, il est arrivé. Merci beaucoup, Anne Besson, d'avoir été avec nous
Merci
en studio
vous.
Aujourd'hui. Cette émission s'achève. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les pouvoirs de l'enchantement, usage politique de la fantasy et de la science-fiction. Ça a été publié chez Vendémiaire en 2021. Merci à Emmanuel Demisco à la réalisation. Ce programme sera très vite en podcast sur le site de Fréquence Protestante. À bientôt.